01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonsoir et bienvenue à l'inauguration du Data Center Equinix à Pantin. L'émission 01 Business se délocalise sur place, ici, donc dans la région parisienne. Nous allons voir avec nos invités comment fonctionne un data center, quel est son modèle économique, quels sont les enjeux environnementaux qui constituent les critères de choix d'un data center aujourd'hui, comment appréhender la question de la localisation des données. C'est vrai que c'est une question importante, des problèmes de sécurité. On dira un mot aussi. J'aimerais avoir une question, parce que samedi se passe quelque chose d'important dans le monde des données, c'est cette minute, cette seconde intercalaire. Est-ce que l'un de vous saura nous dire si ça va changer quelque chose ou pas? Vous savez, on doit se recaler par rapport à la planète, doit se recaler par rapport à l'horloge atomique. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le data center? Ce sera pour la petite anecdote. Voilà, on aura beaucoup de questions. On va parler aussi de cloud computing. Évidemment, c'est la grande actualité aujourd'hui dans le secteur de l'IT. Tout cela, c'est pendant une heure dans notre émission 01 Business sur BFM Business. Alors, pour parler avec nous ce soir sur BFM Business de Data Center, de Cloud, je reçois quatre invités. Le premier, on vient de le croiser à l'instant, il est depuis 2007 le directeur général d'Equinix France. C'est un spécialiste des Data Center et justement, c'est lui qui nous accueille ce soir. Et nous allons avec lui découvrir un peu cet univers des Data Center, pas seulement celui dans lequel nous sommes ce soir, mais vraiment quels sont tous ces enjeux. Michel Brignano, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité est un ancien de Club Internet. Il est passé chez Deutsche Telekom France, donc l'univers des opérateurs. Il est aujourd'hui le président de l'entreprise Nérim, donc un fournisseur d'accès Internet qui, je crois, est client chez Equinix. Donc on va en reparler avec lui. Cyril Lemes, bonsoir. Notre troisième invité dispose, lui, alors il connaît très très bien cet univers des data centers, de l'énergie sécurisée, il y travaille depuis plus de 20 ans. Il est aujourd'hui directeur France des solutions data center chez Schneider Electric. Jacques Perrochat, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Et puis merci d'être avec nous ce soir, parce que voilà, vous remplacez une personne au pied levé, mais une personne chez Schneider. Donc on vous remercie en tout cas d'avoir pu dégager du temps dans votre agenda. Puis notre quatrième invité, il a démarré sa carrière comme consultant au BCG, comme quoi ça mène à tout par la suite. Et aujourd'hui, il est chez SFR Business Team, il est directeur de la division Service et Cloud chez SFR Business Team, client aussi, me semble, hébergé ici. Benjamin Vrevkolski, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans quelques instants, arrivera aussi un autre journaliste de la rédaction de 01 Business, Yann Serra, qui nous fera un premier. On a toujours quelques chroniques qui vont illustrer un peu cette soirée. On fera un tour du monde de l'actualité high-tech et puis on parlera aussi, il aura une chronique aussi sur les data centers. Voilà, pendant une heure sur BFM Business avec nos invités. Je rappelle, c'est une émission qui est enregistrée en direct d'un data center en région parisienne à Pantin, et on va découvrir un peu quelles sont les originalités des data centers. C'est pendant une heure, c'est dans notre émission 01 Business sur BFM Business. Alors, on va commencer notre débat avec vous, Michel Brignano. Vous êtes, je l'ai dit, directeur général d'Equinix France. Alors, un mot sur Equinix pour les auditeurs de BFM Business qui ne vous connaîtraient pas. C'est
Écoutez, Equinix,
parlez bien près du micro.
Equinix, voilà. Est le leader mondial en tant qu'opérateur de data center. On opère un peu plus de 100 data centers dans le monde. On est présent dans les trois grandes régions du monde, qui sont l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Aujourd'hui, on inaugure le quatrième data center d'Equinix France, qui va nous donner une capacité très importante de plus de 25 000 m² de salle informatique.
Et alors, profitons, parce que dans la salle, on a un public de spécialistes, d'experts de cet univers, mais nos auditeurs sur BFM Business savent pas. Enfin, ils imaginent un peu à quoi peut servir un data center. C'est quoi les grandes fonctions d'un data center aujourd'hui?
Écoutez, à l'origine, les data centers ont été créés pour héberger les télécoms, pour pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler des carrefours de la communication, pour que les télécoms puissent s'interconnecter les uns les autres, et pour que vous, de chez vous, vous puissiez converser avec quelqu'un qui est aux États-Unis, en passant par, évidemment, diverses routes de diverses opérateurs télécoms. Ça, c'était la base, c'était les carrefours d'Internet, les carrefours de la télécommunication. Puis, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi héberger, qu'on pouvait sécuriser des données, héberger des données. Et donc, les grandes caractéristiques aujourd'hui d'un data center, c'est de fournir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, de refroidir toutes ces machines et de sécuriser le tout.
Alors, Cyril Demet, vous êtes président de Nérim, donc un FAI, fournisseur d'accès Internet. Aujourd'hui, alors, quels sont vos liens exactement avec le data center d'aujourd'hui, mais plus globalement, qu'est-ce que vous attendez d'un data center aujourd'hui? Alors tout d'abord, nous sommes clients d'Equinix depuis de longues années, puisque nous avons fait partie des premiers clients, je crois, en France. Nous en sommes très fiers. Et nous avons continué au fil des années avec le développement donc d'Equinix. Nous sommes très fiers donc d'être aujourd'hui, ce soir, dans ce magnifique site, cette magnifique infrastructure. Ce que nous attendons, ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir nous appuyer sur un spécialiste finalement de l'infrastructure pour nous permettre, nous, de faire notre métier, qui est un métier d'opérateur de réseau, de spécialiste de l'IP sous toutes ses formes, que ce soit des connexions, de l'hébergement. Donc nous hébergeons dans les data centers d'Equinix des serveurs pour à peu près 20 000 clients entreprises en France aujourd'hui. Et justement, donc cette association finalement des compétences d'Equinix plus de celles que nous pouvons avoir chez Nérim nous permettent aujourd'hui d'avoir, à notre sens, les meilleures offres sur le marché pour pouvoir servir nos clients.
Donc il y a une histoire de rapidité, d'être plus réactif sur le marché. Benjamin Revkeleski de SFR Business Team, est-ce que pour vous, voilà, ce sont les mêmes enjeux? Vous-même, SFR, vous êtes hébergeur aussi quelque part?
Oui, tout à fait. Nous, SFR, c'est des enjeux qu'on connaît bien. On a aujourd'hui plus de 250 000 mètres carrés de surface pour héberger tous nos équipements. Et ça fait 15 ans qu'on exploite ces données. Et on a ouvert en fait aussi des surfaces à nos clients, donc au sein des SFR Business Team, donc la branche entreprise d'SFR, hein, qui porte aujourd'hui 2 milliards de chiffre d'affaires. On a justement ouvert 30 000 mètres carrés à nos clients entreprises pour héberger leurs applications, leurs sites web, leurs données. Et donc c'est des enjeux aujourd'hui, les enjeux data center pour les clients aujourd'hui, c'est des choses que nous connaissons bien et nous travaillons.
Et alors expliquez-nous quel est l'intérêt pour quelqu'un comme SFR d'avoir à la fois ses propres équipements et travailler avec un partenaire Equinix ici en l'occurrence pour ce soir.
Comme l'ont dit les intervenants précédents, l'ADN des opérateurs télécoms, c'est de s'appuyer sur des data centers et donc de maîtriser ces technologies. Mais on a besoin, on le voit de plus en plus, et notamment on y reviendra sur la migration vers le cloud, d'avoir affaire aussi à des spécialistes des couches les plus basses d'infrastructures, et de nous concentrer, nous, les opérateurs télécoms, réellement sur les couches réseau, sur les couches d'usage autour du cloud. Donc c'est très complémentaire finalement de s'appuyer aussi sur des spécialistes de l'infrastructure de data center comme Equinix.
Alors Michel Brignano, ce soir on est dans un data center où on parle beaucoup de l'enjeu environnemental. Alors, ma première question, c'est voilà, quels sont les critères voilà qui disent que ce data center est plus green qu'un autre, voilà à quoi il faut faire attention. Puis ensuite je poserai la question à nos invités aussi, est-ce que c'est un critère de choix lorsqu'on vient s'installer dans un data center?
Alors, il y a deux critères. On va compartimenter en deux. Le premier critère, pour dire qu'il est plus green qu'un autre, c'est un critère de design. C'est un critère de choix d'équipement. Le design, c'est ce qui consomme beaucoup dans un data center en dehors des équipements de nos clients. Ce sont évidemment les équipements de notre infrastructure. Et dans les équipements de notre infrastructure, ce qui consomme beaucoup, ce sont les groupes froids, hein, qui permettent donc de réfrigérer tout ça. Et donc si on a un data center dernier modèle avec des équipements up to date, on arrive à avoir du free cooling par exemple dès qu'il fait moins de 15 degrés dehors. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on économise totalement l'électricité, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça c'est le premier concept. Le deuxième, on a trouvé que c'était pas assez nous Equinix France, et on a décidé de se rapprocher de notre fournisseur préféré qui est EDF, et on a décidé pour 2012 que toute notre énergie proviendrait via contrat, via coût aussi, proviendrait d'énergie renouvelable. Voilà, là, plus green que ça, on pouvait pas faire. Donc à partir de là, j'estime qu'on a fait un pas très important vers, on va dire, l'écologie et l'écosystème.
Un data center plus green. Jacques Perrochat, vous êtes, je l'ai dit, directeur des activités de data center chez Schneider Electric. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans cet univers. Ce critère environnemental, c'est quelque chose qui est monté. On a eu l'impression à un moment que c'était une mode, et en fait, il y a vraiment de vrais critères économiques derrière tout ça.
Hein. Oui, alors déjà, avant d'être une mode, c'est vrai que c'était pas un critère qui n'était pas retenu. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'efficacité énergétique. On n'avait pas ces problèmes-là, et un data center, c'était de la haute disponibilité, de la continuité d'alimentation. C'était ça le critère principal. Effectivement, depuis quelques années, qu'on a vu apparaître le Green IT, qu'on pensait être un effet de mode peut-être pour certains, etc., mais qui n'est pas un effet de mode, qui est un véritable enjeu, un enjeu bien sûr pour la planète. Un data center, ça s'appuie donc sur des infrastructures physiques qui consomment, comme vient de le dire Michel, et l'objectif, et ça c'est notre proposition de valeur et celle qu'on amène à nos clients, nous Schneider Electric, c'est effectivement que nos clients puissent produire plus en consommant moins, hein, donc avec de la fiabilité, haute disponibilité et efficacité énergétique. C'est un enjeu majeur pour les data centers.
Alors, on va poser la question justement à des clients. Donc, Cyril Demetz, vous êtes président de Nérim, donc fournisseur d'accès Internet notamment. Est-ce que ça fait partie, enfin oui, j'imagine que ça fait partie des critères de choix, mais ça apparaît en cinquième position ou en deuxième?
Alors,
cet aspect environnemental justement.
Pour être très très franc, ça n'est pas le premier critère retenu par nos clients. Maintenant, ça fait partie peut-être des 5 critères qu'ils vont regarder. Ils vont évidemment regarder d'abord la qualité qui va être apportée du produit ou du service, évidemment le prix, et évidemment cette partie-là arrivera après. Maintenant, ça fait partie effectivement de la grille d'analyse que font nos clients lorsqu'ils vont voir si effectivement ils vont nous confier leur service. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très clair. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important, je pense qu'il faut le souligner, nous sommes tous des dirigeants d'entreprise ou cadres supérieurs dans un certain nombre d'entreprises clés de ce secteur. Je pense qu'il y a une responsabilité sociale également justement à pousser et faire évoluer justement le marché pour lui faire comprendre l'importance pour tous justement de ce type de choix.
Voilà. Donc, il y a quand même cette prise de conscience. Benjamin Refkeleski de SFR, vous avez cette même sensation. Voilà, c'est un critère, c'est pas le premier critère de choix, mais aujourd'hui il en fait partie en tout cas.
Oui, je crois que il fait partie des critères parce qu'aujourd'hui on peut pas mener une activité business aujourd'hui sans l'intégrer comme un critère important de responsabilité sociétale. Après, c'est vrai que et l'étude qu'on avait fait avec Ipsos dans le domaine des PME et du cloud avait montré que c'était pas l'un des ça arrivait plutôt dans les 9 10e critères comme les plus retenus. Après, ce qui est intéressant dans la dynamique environnementale, c'est que le cloud en lui-même, de par la facilité finalement des usages en mobilité qu'il permet aujourd'hui, peut permettre de réduire les déplacements des personnes. Et par cela, c'est souvent par là qu'on entame une discussion avec nos clients autour des enjeux environnementaux, puisque
c'est ce que disait Cyril Demet, voilà, il y a une prise de conscience, il commence à prendre quoi chez les
voilà,
chez
et
les
c'est
clients,
plus là, enfin c'est plus autour de cette voilà disponibilité des données dans toutes les situations, à travers tous les devices, cette ubiquité qui permet aux entreprises d'avoir des activités plus éco-responsables.
Très bien, mais on va marquer une courte pause sur BFM Business. On se retrouve juste après cette courte pause et on va continuer à parler de l'avenir des data centers. On a parlé un peu des enjeux environnementaux, mais on va aussi parler de cloud computing, de géolocalisation des données aussi. Et puis je vais quand même j'avais oublié ma question sur la seconde intercalaire. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, on va voir si ça peut influer sur ce data center. À tout de suite sur BFM Business. De retour avec nos invités dans notre émission 01 Business sur BFM Business. On parle des data centers. On a vu un peu les enjeux environnementaux. J'avais cette petite question, Michel Brignano. Cette seconde intercalaire, là, c'est important de se recaler. Ça peut avoir une influence sur vos machines aujourd'hui?
Ça, c'est une question difficile. Hein.
Ouais. Ah, mais elle arrive. Hein, c'est samedi 30 juin. Voilà,
ouais.
On aura une minute qui va durer 61 secondes.
Oui, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'incidence. Mm-hmm. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Hein.
Voilà, on verra comment ça va se passer. Parce qu'il faut, a priori, les systèmes, ce qu'on entend des experts, c'est les systèmes ne devraient pas être trop influencés. Mais bon, c'est l'occasion de vous demander tout ça ce soir. Benjamin Refkeleski, vous avez parlé tout à l'heure du cloud. C'est vrai que SFR a participé à une étude avec Ipsos très récemment sur le cloud. Alors voyons un peu les enjeux du cloud aujourd'hui et puis ensuite on verra quelle peut être l'influence de ces enjeux-là sur des data centers. Donc aujourd'hui, on en est où un peu? Alors c'était plutôt auprès des PME, mais on va dire que c'est quand même le gros tissu des entreprises en France. Et alors, est-ce que les PME sont adeptes, sont convaincus par le cloud?
Ce qui est très étonnant sur le marché du cloud, c'est qu'on voit une accélération phénoménale depuis 12 à 18 mois en France. Il y a quelque temps encore, le débat était est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel risque je prends à y aller. et nos clients et les DSI hésitaient à franchir le pas. Et on a complètement changé de monde. Il n'y a pas une réunion client que je fais aujourd'hui où, au-delà de la discussion autour des réseaux, on n'a pas une discussion autour du cloud computing. Chaque entreprise qui a évidemment une partie de son activité, qu'elle soit autour du web ou de ses process métiers, a des besoins informatiques et a besoin de définir sa stratégie de cloud computing. Comment est-ce que je vais y aller? Par quoi je vais commencer? Où mes données vont être localisées? Quelle performance je vais pouvoir en retirer? Et donc, de ces discussions avec nos clients, eh bien, on arrive vers de nouveaux usages, vers des usages en mobilité, qui finalement font migrer petit à petit les PME.
Est-ce que vous pensez pas que c'est par là qu'il faut commencer, peut-être que plutôt que parler aux clients, leur parler usage, leur parler ce que le cloud va leur permettre de faire, plutôt que leur parler de performance, de données sécurisées, de ce genre de choses.
Ben, aujourd'hui, on avait parlé avec Ipsos de révolution numérique. Hein, 80% des PME aujourd'hui estiment vivre une révolution numérique et veulent pouvoir l'accompagner. Et en ce sens, la performance de leur activité, la performance de leurs employés, la performance de leurs clients qui vont commencer à utiliser les sites web et les sites commerçants, eh bien, le cloud computing va leur permettre d'avoir des usages facilités, d'avoir des développements. On voit bien aujourd'hui toutes les mises en produit, les évolutions d'applications qu'on a tous sur nos smartphones aujourd'hui. On voit toutes les semaines, tous les jours, parfois des nouvelles évolutions, des nouvelles features, des nouvelles capacités, fonctionnalités qui arrive, et ça c'est cette nouvelle manière de développer les applications, de faire de l'informatique qui alors on peut parler d'usage, on peut parler de manière de développer, de manière de d'avoir recours à l'informatique, mais ça c'est ce que permet aujourd'hui le cloud.
C'est ce qui est en train de changer aujourd'hui. Cyril Demes, directeur général de Nérim, vous, qu'est-ce que vous attendez du cloud en tant que PME?
Tout d'abord, nous proposons donc des offres cloud à nos clients, et c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a eu un basculement assez récemment. Ça fait à peu près un an que tout le monde parle de cloud, mais finalement c'est maintenant, depuis quelques mois, que les entreprises sont en train d'y passer. Ils ont compris, entre autres, à part effectivement donc le fait qu'il puisse y avoir cette meilleure utilisation de l'ensemble des ressources permet évidemment des économies, ce que aujourd'hui tout le monde recherche bien sûr. Mais ce qui est important également, c'est que finalement les clients comprennent aujourd'hui qu'ils réussissent à avoir de façon très simple des solutions clés en main, directement opérationnelles. En quelques minutes, on peut avoir finalement l'ensemble de son cloud, de ses VM et autres qui ont été formés, et pouvoir.
C'est des machines virtuelles. Hein, je dis pour les auteurs de BFM Business, ils sont pas forcément totalement avertis sur tout ce qui se passe dans les clouds. Et là, oui, allez-y.
Et ils peuvent directement donc avoir des infrastructures finalement extrêmement puissantes qui vont être à leur service, qui vont fonctionner uniquement suivant leurs besoins, et finalement qui sachent leur infrastructure, leurs logiciels sont dans tel ou tel serveur n'est pas très important finalement pour eux.
Et est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'ils y voient des inconvénients aujourd'hui? On parlait tout à l'heure, voilà, il faut les convaincre, il faut leur parler usage, performance, mais est-ce que là on entend qu'est-ce qui se passe le jour où on veut quitter le cloud? Certains commencent à faire ils comprennent un peu mieux le système, ils font des plans un peu plus longs, ils se rendent compte que d'ici 5 ans c'est pas forcément une solution aussi rentable que ça.
Bah, ce qui est essentiel lorsqu'on choisit son cloud finalement, c'est avant tout de comprendre précisément ce que son fournisseur peut apporter. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont essentiels. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant, mais effectivement il est important de s'assurer qu'en termes de réglementation on se retrouve dans un pays qui ne soit pas trop intrusif. On pense par exemple au Patriot Act.
On va en reparler dans l'autre partie de cette émission.
Vous allez en reparler, d'accord. Mais c'est très important de savoir par exemple que le fournisseur à qui on va confier un certain nombre de données donc a prévu tout ce qui concerne par exemple la réversibilité donc des données. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Il est essentiel également donc de savoir à qui on a affaire, si la société à qui on confie finalement toutes ces données est un acteur solide par exemple. Donc ce sont des éléments, il y a un certain nombre d'éléments clés qu'il faut absolument suivre et faire attention à ça.
Jacques Perrocha de General Electric, est-ce que pour vous, General Electric, donc il fournit de l'énergie sécurisée, les enjeux du cloud, évidemment pour vous c'est un nouveau levier de croissance?
Alors bien sûr, le cloud ça veut dire quoi? C'est
l'utilisation en libre service à la demande de ressources. Alors le cloud, c'est les nuages, on a la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Donc à un moment donné, tout ça se repose sur des serveurs, ces applications se reposent sur des serveurs. Des serveurs qui sont dans des racks qui sont alimentés et refroidis dans des data centers, comme celui de Michel. Et voilà. Qu'est-ce qui a changé? C'est que le fait qu'on les utilise à la demande, à l'usage, il faut aussi que toutes nos infrastructures physiques, nos data centers soient extrêmement flexibles. On parle beaucoup de modularité. On ne peut plus faire un data center comme on le faisait il y a 10 ans. Michel aujourd'hui a conçu un data center nouvelle génération qui peut supporter ce type d'usage.
Alors justement, Michel Brignano, vous nous avez dit c'est le quatrième data center ouvert par Equinix. Et puis je rappelle, on enregistre cette émission de 01 Business en direct depuis ce data center. On espère qu'il y aura plein de serveurs ici dans cette même salle. Dans quelques temps, le cloud justement, ça va permettre de remplir cette salle de serveurs. Il y a un vrai, je le disais à l'instant, un levier de croissance que vous retrouvez pour vous, propriétaire d'un data center.
Oui, tout d'abord, on est une société internationale, on est une société américaine. Vous savez déjà par les grandes références américaines que sont les Amazon, les Microsoft, les Google, que le cloud pour eux est une stratégie et donc sont déjà nos clients. Nos clients, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Donc, effectivement, c'est déjà à aujourd'hui un vecteur de croissance. Hein. Je crois qu'on réalise déjà à peu près 28% de notre revenu en cloud sur des applications cloud. Donc, pour nous, France. Moi, je rejoins un petit peu Benjamin quand il dit que voilà, on sent venir depuis le début, depuis le début de l'année. Un engouement en France. Alors, vous savez, en France, on démarre toujours un peu lentement. Et puis, quand on démarre, après, on accélère très, très fort. Et bien, j'ai l'impression que pour le cloud, ça va faire un petit peu comme ça a fait dans le passé, pour les mobiles ou pour l'Internet à la maison. On va aller très fort. On voit des publicités à la télé. On voit des acteurs majeurs comme SFR, comme Orange, qui ont décidé de déclencher...
Ici aussi, on sent une...
Là, on a déclenché quelque chose.
Ouais. Qui se déclenche.
De déclencher une stratégie cloud. Et effectivement, oui, pour nous, c'est un facteur de croissance très, très important.
Benjamin Revkolevski, quand on parle de... Ce qui marche aussi dans le cloud aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus conscient. Il y a du cloud privé, cloud public. On parle de cloud hybride aussi. On parle de IaaS, infrastructure as a service, software as a service, plateforme as a service. Le marché est mieux segmenté aussi aujourd'hui. On comprend un peu mieux qui fait quoi. Hein. C'est ce qui va aider aussi à ce que ce marché se développe.
Alors, je pense que Frédéric, là, vous êtes déjà ambitieux en disant que ça se clarifie, parce que c'est quand même aujourd'hui un marché où il y a beaucoup d'acteurs et les frontières
dans la presse, on fait tout pour, en tout cas, pour d'expliquer un peu tout ça.
C'est vrai que aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui se sont positionnés sur l'infrastructure, sur le plateforme as a service et aussi sur le SaaS. Maintenant, les acteurs bougent aussi et accompagnent ces mouvements. Ce qui reste essentiel, c'est pour nous, c'est une vraie mutation finalement des usages informatiques. Le cloud, et ça peut commencer par du SaaS. Certains grands groupes vont commencer à rentrer dans le cloud par le SaaS. Des PME vont rentrer finalement par l'infrastructure as a service, donc vraiment des machines virtuelles sur lesquelles elles vont poser leurs environnements. Mais c'est une manière, et le PaaS qui est en train de se développer, on est finalement dans une modernisation de l'informatique des entreprises. Et nous, on croit beaucoup, et avec pas mal de nos clients, vers ces usages de cloud public qui, avec, on va dire, du véritable cloud, mutualisé avec toute la flexibilité et toutes les économies de coûts que l'on peut attendre du cloud computing.
Eh bien, le cloud, les data centers, on va continuer à en parler dans un instant sur BFM Business. On va marquer une courte pause de cette émission qui est enregistrée, donc en direct depuis Pantin, dans la région parisienne, où nous sommes à l'inauguration d'un nouveau centre de données assez important. Combien de mètres carrés, rappelez-nous, Michel Brignano?
Il y aura 12 000 mètres carrés nets d'espace.
Voilà. Et la société s'appelle Equinix, on se retrouve tout de suite sur BFM Business pour notre émission 01 Business. On se retrouve sur BFM Business avec nos invités, Michel Brignagno, qui est directeur général d'Equinix France, Cyril Demetz, qui est président de Nérim, Jacques Perrochat, qui est directeur France des solutions data center de Schneider Electric France, et Benjamin Revkolevski, qui est directeur service et cloud de SFR. Vous l'avez compris, on parle de data center ce soir sur BFM Business, et nous enregistrons d'ailleurs cette émission en direct même d'un data center. Mais avant de retrouver nos invités, nous accueillons Yann Serra, journaliste à la rédaction de 01 Business et Technologie. Bonsoir Yann.
Bonsoir Frédéric.
Pour une revue de l'actualité de la semaine, et on va démarrer tout de suite. C'est tout récent, c'est Google qui a lancé sa tablette Nexus 7. Donc on quitte un moment cet univers du data center, mais Google, bon, n'est pas complètement inconnu dans cet univers non plus, hein, Yann.
Et oui, encore un concurrent pour l'iPad. Tout comme Microsoft, Google fabrique lui aussi désormais sa propre tablette tactile. Mais contrairement à la tablette Surface de Microsoft, la Nexus 7 de Google est déjà disponible. Elle coûte moitié moins cher qu'un iPad, et puis elle est aussi plus petite et plus légère. Alors attention, en revanche, Google ne veut pas en faire un produit professionnel. La Nexus 7 est conçue pour lire des vidéos, jouer des jeux, et est d'ailleurs livrée avec un bon d'achat de 25 euros sur le magasin en ligne de Google. C'est un point intéressant, car même si l'on constate qu'il se vend à l'heure actuelle plus de téléphones Android que d'iPhone, les mobiles Android n'ont pas du tout percé en entreprise. D'ailleurs, on l'a remarqué au sein de la rédaction de 01 Business Technology à l'occasion d'une enquête récente. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, c'est le seul marché où véritablement les téléphones Windows Phone percent.
Voilà. Donc on peut comprendre pourquoi cette tablette Nexus 7 va plutôt...
Bien voilà, on sent Google lâcher l'affaire et laisser Apple et Microsoft percer dans les tablettes d'entreprise.
Autre nouvelle moins réjouissante dans notre secteur cette semaine, c'est le cabinet Forrester qui le révèle. Les dépenses informatiques vont augmenter, mais un tout petit peu.
Elles se tassent. Voilà, c'est un tassement de l'augmentation. C'est une étude du cabinet Forrester qui le révèle. Comme vous le disiez, Frédéric, l'augmentation des dépenses en informatique entre 2011 et 2012 devrait être à peu près de 1%. Alors qu'elle était de 4% entre 2010 et 2011. Et ce qui plombe le marché, c'est le matériel. Il va se vendre en 2012 autant de PC qu'en 2011, c'est-à-dire 0% d'augmentation. Et il va se vendre moins de serveurs et de baies de stockage, comme dans l'équipe ici, dans les data centers. Alors, le problème, c'est surtout que pour les constructeurs de matériel, qui sont pour la plupart américains, et avec les fluctuations des taux de change entre l'euro et le dollar, Forrester prévoit que, vu des États-Unis, le marché de l'informatique en Europe est un marché qui va s'écrouler de près de 6%. Alors, à noter que le seul domaine qui marche encore en informatique en Europe, c'est le conseil et l'infogérance, hein, puisque c'est un secteur qui va augmenter de 3%, et même 5% dans un pays de l'Union européenne. Et ce pays, c'est...
Eh bien, c'est chez nous, c'est la France.
C'est la France,
exactement. Alors, on reste justement en France. C'est en France que l'informatique est le domaine dans lequel on recrute le plus d'ingénieurs. Donc voilà, une croissance qui se tasse dans la chaîne matérielle, mais en tout cas, au niveau du recrutement, les ingénieurs ont la cote.
Et cette fois-ci, c'est révélé par une enquête du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France. Depuis 2011, le secteur de l'informatique a recruté un ingénieur sur 9 en France. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Pas forcément pour les ingénieurs, puisqu'avec un salaire en milieu de carrière de 53 000 euros par an, l'ingénieur informatique est le moins bien payé des ingénieurs français. À titre de comparaison, sachez par exemple que le salaire d'un ingénieur dans les télécoms en milieu de carrière est de 60 000 euros par an.
Voilà, ça me permettra de préparer les revendications de fin d'année. Autre nouvelle, Yann Serra, c'est un rapport qui accable la sécurité informatique du gouvernement des Pays-Bas.
Et c'est un rapport de la commission nationale hollandaise Dutch Safety Board qui révèle une histoire hallucinante. En septembre 2011, des pirates avaient réussi à corrompre les certificats logiciels qui servaient à sécuriser toute l'informatique publique des Pays-Bas. C'est-à-dire aussi bien sécuriser le paiement des impôts sur Internet que les communications entre les différents ministères. Alors normalement, lorsque cela arrive, il suffit tout simplement de remplacer les certificats par d'autres. Mais voilà, comme le gouvernement hollandais avait eu la mauvaise idée de mettre exactement le même certificat sur tous les dispositifs informatiques, il a fallu des mois pour tout remplacer, avec la crainte permanente que le remplacement d'un certificat à un endroit, mais pas à un autre, mette en panne des systèmes, et surtout pire, la crainte qu'on découvre que tous ces systèmes fonctionnaient, du coup, sans aucun certificat.
On aurait pu pirater les impôts,
il aurait été facile de pirater les impôts, les ordinateurs des ministères. Alors, pour plus que ça arrive, la commission chargée de l'enquête a recommandé au gouvernement hollandais de se conformer enfin à des normes de sécurité, comme on le demande aux entreprises, et que chaque service public soit jugé responsable s'il se fait pirater par négligence.
Voilà, et ça peut pas nous arriver en France, hein, non.
Eh ben, écoutez, on espère que ça ne peut pas arriver, mais en tout cas, c'est un bon exemple où on montre qu'à chaque fois on fait la leçon aux entreprises, on leur dit il faut que vous soyez sécurisés, puis voilà, les gouvernements le font même pas.
INRIA, on reste dans le domaine de sécurité. INRIA a découvert comment pirater 5 systèmes de chiffrement, pas moins.
Et oui, alors rien ne va plus pour Aladdin, Gemalto, RSA, Cefnet et Siemens. Les systèmes de chiffrement qu'ils vendaient encore récemment pour crypter des messages ont été piratée. En l'occurrence, bon, rien de grave n'est encore arrivé puisque ce sont les chercheurs de l'INRIA qui ont fait cette découverte. Mais quelle découverte ! La faille qu'ils ont mis à jour leur permet de décrypter en 13 minutes un message qui était programmé pour rester secret pendant des centaines d'années. Alors, les fournisseurs de systèmes de sécurité ont entre-temps mis à jour leur solution, mais ça ne suffit pas. Il faut que toutes les entreprises qui ont utilisé leur système de cryptage recryptent leurs documents avec un dispositif plus moderne.
Voilà, la sécurité qui reste toujours au cœur des préoccupations. Merci Yann Serra, on vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique. Et puis là, c'était ce tour du monde de l'actualité high-tech. Et on retrouve nos invités sur 01 Business pour cette émission enregistrée en direct du data center d'Equinix dans la région parisienne à Pantin. On a parlé de cloud, on a parlé d'enjeux environnementaux. Et puis tout à l'heure, Cyril Demetz, président de Nérim, vous nous avez parlé de la géolocalisation des données. Là, justement, qu'aujourd'hui, les clients sont quand même plus sensibles à ce que les... Rappelez-nous un peu quels sont les enjeux. Il faut que les données soient hébergées par des... On préfère par des sociétés françaises, c'est ça ?
Il vaut mieux, puisque quand on confie finalement ces données, on finit avec toute cette révolution de la virtualisation et ne plus savoir vraiment où elles sont basées. Donc c'est un point essentiel. Il faut absolument que les entreprises donc vérifient systématiquement auprès de leurs fournisseurs où finalement ces données vont se retrouver, sachant par exemple que, on le sait bien, nos concurrents, Google ou Amazon aujourd'hui qui font du cloud, finalement, il suffit de lire leur CGV, donc un certain nombre de clauses liées au Patriot Act aux États-Unis qui font que finalement le gouvernement américain peut avoir la main sur l'ensemble des données donc qui sont hébergées chez eux, c'est un fait. Donc un certain nombre de messages ont été passés aux entreprises de la part des ministères, par exemple en France, de façon à leur rappeler de faire extrêmement attention à ce genre de choses, puisque les données sont aujourd'hui finalement la clé de la réussite de l'ensemble de nos business.
Benjamin Refkoleski de SFR, justement cette partie localisation des données, c'est un vrai souci aujourd'hui, je crois. Ça fait partie des points sur lesquels il faut s'attarder lorsqu'on fait héberger ces données par un autre que soi.
Oui, tout à fait. On écoute à nouveau nos clients et le premier enjeu qui ressort, c'est la performance. On a déjà parlé, donc avoir accès avec le bon débit et la bonne qualité mes applications. Mais ce qui revient tout de suite derrière, c'est la sécurité. Et derrière cet enjeu de sécurité, j'ai besoin de savoir où sont mes données. J'ai besoin d'être sûr que l'intégrité de mes données va être garantie. Et j'ai besoin de savoir sous quel régime légal elles sont traitées. Et si j'ai un problème, de pouvoir me retourner vers mon fournisseur, d'être sûr, comme l'a dit l'interlocuteur précédent, de ne pas être sous le coup effectivement des législations, enfin des agences américaines. C'est un enjeu de politique industrielle, c'est un enjeu stratégique industriel pour les entreprises françaises. C'est d'ailleurs pour cela que on a décidé de construire le projet Andromède avec l'État français et avec Bull, parce que puisque toutes nos industries et qu'on soit PME ou grande entreprise, on a une partie de notre informatique, on a une partie de nos données qui deviennent critiques pour notre business, et bien on a besoin de savoir où elles sont, de savoir comment elles sont traitées et d'avoir les garanties de sécurité et de pérennité dessus.
Jacques Perrochat, vous chez General Electric France, je l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans cet univers des data centers. Vous l'avez vu, est-ce que c'est une problématique de toujours là, cette localisation des données, ou est-ce que vraiment c'est ressorti juste voire même ces derniers mois?
Alors, moi je pense qu'au-delà de la localisation des données, qui est un petit peu défensif quelque part, je pense qu'il y a un réel intérêt à avoir des données proches de soi. C'est pas juste une sorte d'usage où on se dit, tiens, j'ai envie d'avoir mes informations proches, comme si c'était une nécessité, parce qu'effectivement, la technique permettrait de les avoir un peu plus éloignées. Mais je pense qu'il y a une vraie réalité. Alors, ça se sent en France avec les très très larges data centers qui sont majoritairement donc sur la région parisienne, comme celui d'Equinix. Et puis il y a une réalité aussi de data centers régionaux qui se développent un peu partout en France, qui sont pas du tout concurrents, qui sont complémentaires, qui sont nécessaires. Les data centers, ce sont des usines numériques. Ces usines passent après, sont reliées entre elles par des autoroutes, des tuyaux, des fibres. Et on peut imaginer qu'à un moment donné, il paraîtrait peut-être anormal d'encombrer des tuyaux avec des données qui peuvent être utilisées localement. Hein, typiquement, on le voit dans les applications telles que l'imagerie médicale, qui sont des enjeux considérables en termes de stockage de données. On peut imaginer qu'elles soient quand même plus proches des utilisateurs. Et donc, voilà, en France, des marchés et nationaux et régionaux.
Alors, Michel Brignano, vous êtes, je rappelle, directeur général d'Equinix. Donc, vous êtes propriétaire de 4 centres de données, notamment en France. L'un vient d'ouvrir ici même à Pantin et d'où nous enregistrons cette émission ce soir. Justement, quels sont les dispositifs que vous assurez à vos clients autour de cette sécurisation des données, cette localisation des données? Voilà, est-ce qu'il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux économiques? Voilà, comment ça se passe?
Alors, premièrement, le métier d'un opérateur de data center, c'est d'héberger, c'est-à-dire de fournir de l'espace, de fournir de l'électricité, de fournir du refroidissement et la connectivité. Mais en aucun cas, nous interférons dans les données de nos clients. Donc, parler de contrôler les données de nos clients, c'est pas de notre fait. Par contre, je peux adhérer à ce que disait mon voisin qui en expliquant que pourquoi faire transférer des données à travers de la connectique quand on peut les utiliser à un endroit bien précis. D'où l'intérêt d'avoir de grands data centers, d'où l'intérêt de créer des écosystèmes, et d'où l'intérêt, en fait, de venir dans le data center. C'est un peu pour ça que, par exemple, si vous regardez le trading dans la finance, vous avez le cœur qui peut être Deutsche Börse, Euronext, et autour, vous avez tout un tas de clients qui vont venir juste à côté. Et là, tout est local parce que la connectivité est très rapide. Là, c'est le temps qui les intéresse.
Oui, là, on joue avec 3 secondes, oui.
Voilà. Et donc, ça peut aussi aider à empêcher ces données de partir là où on ne veut pas.
Là, je crois que c'est le maître qui disait ça tout à l'heure, ou Benjamin Rifkowski, les clients français, ils aiment bien avoir le data center pas loin de chez eux. Vous l'avez constaté, je sais pas, sur le marché français plus particulièrement.
Bah, écoutez, en France, vous savez que c'est un petit peu atypique, on est un pays un petit peu atypique, que 80% de l'économie se trouve à Paris, oui, déjà. Donc déjà, ça répond à 80% de la question. Maintenant, oui, en province, vous avez quelques clients provinciaux qui préféraient avoir des data centers à côté de chez eux. La problématique aujourd'hui, c'est que créer des data centers en province nous oblige, du coup, à les créer plus petits, et donc on change le modèle. Mm-hmm. Et c'est pas tout à fait le modèle d'Equinix.
D'accord. Alors, Cyril Lemaitre, justement, ce côté de proximité avec un hébergeur, pour vous, c'est important, d'être pouvoir réagir rapidement.
Alors, pour nous, c'est crucial hein, en tant que qu'opérateur de réseau et opérateur télécom. Donc, c'est absolument essentiel qu'on puisse avoir un accès extrêmement rapide au data center dans lequel nous avons donc l'ensemble de nos infrastructures réseau et l'ensemble des infrastructures donc de nos clients, soit serveurs, routeurs ou autres. Ensuite, nous avons des typologies de clients qui, eux, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle la colocalisation, donc des gens qui vont louer des baies chez nous avec de la connectivité assurée et qui eux ont besoin effectivement pareil d'être extrêmement proches puisqu'ils vont eux-mêmes venir directement donc dans nos salles au sein donc d'Equinix.
Eh bien, on va se retrouver dans un instant, on va marquer une courte pause et on va attaquer le dernier quart d'heure déjà de notre émission. On continue à parler des data centers, on va parler un peu de défis, des prospectives du marché français aussi. Est-ce que la France est plutôt bien positionnée sur ce marché ou pas, comparé à ses concurrents? Et tout de suite dans notre émission 01 Business sur BFM Business. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec nos invités. Michel Brignano, qui est directeur général d'Equinix en France, un opérateur de data center, dont nous inaugurons le 4e centre en France. Et nous présentons cette émission en direct depuis ce centre de données situé dans la région parisienne. Autres invités, Cyril Demetz, qui est président de Nérim, Jacques Perrochat, qui est directeur France des solutions data center de Schneider Electric, et Benjamin Rifkowski, qui est directeur service et cloud de SFR. Avant de retrouver nos invités, nous retrouvons Yann Serra, journaliste à la rédaction de 01 Business et Technologie, pour une chronique. On va faire un petit retour vers le cloud, Yann. C'est la CNIL qui a publié 7 recommandations à suivre avant d'aller dans le cloud. C'est votre chronique d'aujourd'hui.
Et oui, entreprise, attention, il est de votre responsabilité de prendre certaines précautions avant de souscrire à une offre cloud. Le cloud, donc, on l'a dit, hein, c'est le fait de ne plus avoir d'informatique à demeure et d'enregistrer toutes ces données ou d'exécuter toutes ces applications sur Internet. Et il y a donc 7 points à vérifier avant de basculer son informatique dans le cloud. Alors, première Premièrement, il ne faut pas tout mettre dans le cloud. Pas de données sensibles, ainsi les plans du futur produit pour un industriel ou les fichiers d'un patient pour un médecin ne doivent pas se retrouver dans le cloud.
C'est ce que recommande la CNIL aujourd'hui. Le deuxième point, c'est il faut un contrat assez précis sur la...
En fait, ce qu'il faut, c'est exiger, avant de signer le contrat, que les données mises dans le cloud doivent pouvoir être récupérées facilement et dans un format standard. Il se peut en effet que vous souhaitiez changer de prestataire à un moment ou l'autre, et il ne faudrait pas que vous soyez empêché de le faire parce que vos données sont séquestrées ou parce qu'elles deviendront inutilisables dès qu'elles seront remises en liberté.
Le troisième point, il y a les pénalités. On peut prévoir des pénalités, c'est ce que recommande la CNIL en tout cas.
Oui, il vaut mieux définir contractuellement des pénalités pour votre prestataire pour le cas où il annonce du jour au lendemain qu'il n'est plus conforme à une réglementation ou que sa technologie est obsolète. Si cela arrive, il faut que ce soit la seule faute du prestataire et pas celle du client. Cela évitera à l'entreprise de devoir payer pour une mise à jour, par exemple, qui ne concernera que son prestataire.
Alors, on parlait tout à l'heure des différents segments du cloud, et justement, c'est ce que conseille la CNIL, c'est de ne pas faire appel à des solutions de cloud toutes identiques.
La CNIL dit, voilà, il ne faut pas mettre tous ses œufs, dans le même panier. Si vous voulez héberger un site web en cloud, il vous faut un cloud de type IaaS, avec des machines virtuelles. Mais n'allez surtout pas vous embêter à mettre aussi là-dedans vos emails et les données de vos applications. Mettez-les plutôt dans un cloud de type SaaS, qui lui est fait pour. Vous aurez ainsi deux offres, ce sera plus cher sans doute, mais beaucoup plus simple à gérer.
Voilà, un cinquième point, c'est il faut... qui est responsable de quoi? Ça, la CNIL aime bien ce genre de recommandations.
Oui. Qui est responsable de quoi devant les autorités le jour où il y aura un litige? La CNIL a dressé d'ailleurs sur son site web une liste de toutes les responsabilités que doit endosser un prestataire, notamment si les données sont piratées, qui est responsable?
Et alors, autre point, il faut prévenir les utilisateurs.
Et oui, il faut bien communiquer auprès des utilisateurs qu'on bascule vers une utilisation en cloud sur Internet et que par conséquent, il y aura des précautions à prendre en termes de mot de passe ou de téléchargement de fichiers parce qu'un cloud, ce n'est pas sécurisé de la même manière qu'une salle informatique interne.
Et puis, encore des termes contractuels, c'est qu'il faut vérifier à nouveau. C'est le septième point.
Le septième point, c'est qu'il faut revérifier que les termes du contrat sont toujours respectés à chaque fois que le prestataire fait évoluer son offre. Et en informatique, ça arrive très souvent qu'un prestataire change de système ou change de locaux, d'ailleurs.
Eh bien, merci Yann Serra pour cet éclairage de ces sept recommandations de la CNIL. Je me tourne vers vous, Benjamin Revkolevski. Vous y êtes conforme, vos sept? Là, on peut cocher chacune des cases?
Je pense qu'en matière de recommandations, tout le monde est évidemment progresse en matière de cloud. Je voulais revenir notamment sur deux choses. L'hébergeur de la partie données de santé, aujourd'hui, il y a un label très strict d'hébergeur de données de santé, donc SFR obtenu en début d'année, et qui impose évidemment des garanties très strictes autour de la conservation et de l'hébergement des données. Donc c'est évidemment des enjeux qu'on adresse. Après, c'est sûr que les recommandations de la CNIL aujourd'hui, je pense que les opérateurs...
Vous allez avoir des utilisateurs qui vont venir avec ça. Voilà, ça s'adresse plutôt aux utilisateurs qui vont... Voilà, des petits moyens de pression, de discussion en tout cas avec...
Je pense que ce que se traduit surtout les recommandations de la CNIL, c'est le besoin d'avoir un cloud qui soit maîtrisé. C'est comme ça qu'on aime bien l'appeler chez nous. On est passé d'un cloud qui était plutôt de classe Internet, avec effectivement beaucoup moins d'engagement de qualité de service... Une réversibilité des données qui n'était pas garantie. Et aujourd'hui, ce qu'attendent les entreprises françaises, c'est réellement des engagements de performance, des engagements autour de la sécurité, des engagements autour de la localisation des données. Et c'est plus ça que je veux retenir des recommandations très exigeantes.
La CNIL. Alors, on va remercier Benjamin Revkolevski. On va revenir justement sur notre activité de domaine data center. Michel Brignano, de directeur général d'Equinix, donc opérateur de centres de données, de data center. Où est-ce que se situe la France aujourd'hui globalement sur le marché? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on a une capacité normale? On voit beaucoup, là, Equinix ouvre son quatrième centre ce soir, mais on voit aussi vos concurrents qui ouvrent régulièrement, alors des petits ou des plus grands centres, mais voilà, on se dit en France, les prévisions sont plutôt bonnes dans ce domaine?
Alors, tout d'abord, sur le plan mondial, la France se situe au quatrième rang en termes de nombre de data centres, ce qui est pas mal. Alors après, pour parler plus particulièrement de la France, oui, il y a ça va, ça vient. Il y a un moment donné, les data centers s'ouvrent, et puis après, pendant un certain nombre d'années, ils ne s'ouvrent plus, il faut les remplir. Bon, nous, chez Equinix, on ouvre une phase tous les ans. Donc on sait à peu près à quel rythme de croissance on avance. On avance de plus en plus vite.
Rappelez-nous, vos clients sont plutôt des opérateurs, c'est ça?
Non. La base au départ sont des opérateurs. Après, il y a différents écosystèmes. Vous avez toute la net économie, tout l'IT, le cloud. évidemment. Après, vous avez la finance. Vous avez maintenant tout ce qui arrive du contenu, le content. C'est peut-être le futur, d'ailleurs. Et puis enfin, surtout en France, l'entreprise.
Et est-ce que vous voyez des entreprises qui justement étaient plutôt stockage, hébergement interne et qui basculent aujourd'hui? Ça c'est une vraie tendance ou ça a toujours été, il y a eu des vagues, il y a eu des modes, c'est un peu fluctuant?
Je pense que Cyril pourra répondre pour en ce qui concerne les PME plus facilement, parce que il doit en avoir beaucoup. Mais moi je peux vous dire qu'en termes de nous, évidemment, quand on a des grandes data centers comme ça, les grandes entreprises nous intéressent, même si on ne fait pas que ça, loin de là. On fait beaucoup aussi de la PME, hein, petite et moyenne, mais la grande entreprise nous intéresse. Et on voit effectivement un grand changement. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, être capable de proposer des dual sites, c'est-à-dire deux data centers interconnectés entre eux, parce que les entreprises veulent ouvrir deux salles en même temps. C'est même un peu une nouveauté de l'année, ça.
Alors, on parlera juste après avec Cyril Lemaitre, justement, de cette problématique PME. Jacques Perrochat, de Schneider Electric, justement, autour de ces data centers, ce changement, les entreprises qui font héberger de plus en plus. Pourquoi? C'est parce qu'on, dans un data center, voilà, on a des spécialistes, on l'a dit tout à l'heure, de l'électricité, de l'informatique, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément dans son entreprise. C'est aussi une tendance aujourd'hui?
Alors oui, complètement. En tout cas, c'est une tendance que nous, on voit très clairement. On accompagne donc tous les grands de l'hébergement. C'est exactement ce que vous dites. Un data center, ça devient complexe. Nous faisons tout ce qu'il faut pour nous le simplifier avec des systèmes d'orchestration, de pilotage un peu comme dans les avions, mais néanmoins ce sont des systèmes complexes et donc il faut des compétences dans le domaine IT, mais des compétences aussi dans le domaine des facilities, c'est-à-dire dans le domaine de la partie technique, et qui sont des compétences beaucoup plus transverses qu'avant. Avant il y avait l'électricien, la climatisation, la personne qui s'occupait de la sécurité, et aujourd'hui tout ce monde-là est interconnecté. Et il faut avoir ces compétences donc dans les fournisseurs des solutions qui vont accompagner les clients, et y compris d'ailleurs, je pense que je peux en parler, dans ces équipes, il faut aussi des nouvelles compétences pour pouvoir embraser toute cette vision complète.
Et il faut pouvoir les avoir toutes sur le même site. Un mot sur le fait que le marché français soit intéressant, Jacques Perrochat, et vous connaissez ça par cœur en étant chez Schneider Electric, c'est aussi que l'électricité chez nous, elle est plutôt de bonne qualité. Elle est plutôt moins chère qu'ailleurs. Enfin voilà, c'est un des atouts aussi de la France.
Alors oui, vraiment, nous avons créé il y a quelques années un club qui s'appelle Friends for Data Center. Un objectif, vendre la France à l'international. Pourquoi? Parce que la France s'appuie sur des fondamentaux. La qualité et ses réseaux électriques, le coût de cette énergie fortement décarbonée, la qualité aussi des réseaux optiques, des fibres au débit, et puis aussi des compétences dans le monde du génie civil, des contractants généraux, ceux qui construisent ces data centers, des compétences aussi dans l'exploitation, et les compétences aussi dans l'utilisation. Des grandes informatiques viennent rechercher des compétences en France, ou viennent pas forcément les prendre, mais s'appuyer sur des compétences françaises, des ingénieurs informatiques, ça. Donc on a des vrais fondamentaux. C'est pour ça que moi je suis convaincu que la France est le meilleur endroit pour faire des data centers dans le monde.
Et bien justement, Cyril Lemaitre, vous président de Nérim, vous êtes français, donc raison de plus pour héberger tout ça en France. On parlait tout à l'heure des PME. Où se situe la France dans le domaine des data centers? Qu'est-ce qui attire les PME justement à faire héberger de plus en plus? C'est une vraie tendance aujourd'hui. On parlait de cloud tout à l'heure, mais voilà, donc c'est avoir une infrastructure, voilà, on l'a dit, toutes ces spécialités sont rassemblées, c'est ce qui vous intéresse, j'imagine.
En fait, on a connu plusieurs évolutions dans le monde de la PME, puisqu'effectivement, nous sommes une entreprise qui a à peu près 20 000 clients PME en France. Une première évolution, ça a été de comprendre que, pour une PME, qu'elle avait besoin d'avoir des connexions donc de qualité. Ça a été une première chose, avec un grand passage donc des technologies ADSL vers SDSL et maintenant fibre des PME. Une deuxième extrêmement importante,
sur tout ce qui concerne donc les serveurs. Pendant très longtemps, le serveur dans une PME était placé par terre à côté de la machine à café, dans une salle en général dont la climatisation ne fonctionnait plus depuis un bon moment. C'est la réalité de ce qu'on pouvait trouver sur le terrain. Depuis un certain nombre d'années, les entreprises ont compris, donc, et les PME ont compris qu'il y avait des spécialistes qui pouvaient donc se charger donc de l'ensemble de ces infrastructures dans des centres de qualité comme celui qu'on a aujourd'hui, et c'est finalement donc ces évolutions qui aujourd'hui heureusement nous permettent donc d'avoir connu donc cette nouvelle étape
où... puis de réagir plus vite sur un marché, d'être plus agile, c'est le mot qu'on emploie souvent aujourd'hui.
C'est exact. Aujourd'hui, effectivement, les PME aussi ont fait ce saut.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Michel Brignano, donc vous nous avez accueillis ce soir ici même au sein de votre quatrième data center en France. Alors, c'est quoi aujourd'hui les grands défis à relever pour des opérateurs de data center? C'est évidemment de remplir vos data centers, hein, d'avoir de plus en plus de clients. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, voilà, quelles sont les deux trois pistes à suivre aujourd'hui?
Bon, mais écoutez, vous l'avez dit, hein, la première chose, il faut les remplir, hein, parce que ça a un coût, un data center, et il faut rentabiliser. Donc ça, c'est le premier défi, mais c'est quelque chose que l'on fait depuis un certain nombre d'années. Si on doit aujourd'hui se projeter un tout petit peu, moi, je pense que le trafic, la communication va continuer de s'intensifier de manière exponentielle. C'est-à-dire que la vidéo, le cloud et bien d'autres choses vont arriver avec tous les outils mobiles que nous avons maintenant dans les mains. Et à partir de là, l'objectif du data center, ça va être de continuer à être capable d'offrir cette interconnectivité, cette facilité de communication pour que les gens qui vont vouloir mettre du contenu sur la toile, ils vont forcément décider d'aller dans un data center, cloud ou pas cloud, d'une manière ou d'une autre, ils vont venir, parce que c'est là que la communication sera la plus fiable et la plus rapide.
Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci à nos invités pour vos interventions brillantes sur BFM Business. Merci à Michel Brignano d'Equinix, Cyril Lemaitre de Nérim, Jacques Perrocha de Schneider Electric et Benjamin Revkolevski de SFR. Une émission enregistrée en direct, vous l'entendez, chez Equinix à Pantin. Merci à Yann Serra et Pauline Ridley pour leur émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 01 Business. Merci.